Mémoire d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand. Troisième partie, livre 40e. Arrivée de Madame de Beaufremont à Venise. Le Cataggio, le duc de Modène, tombeau de Pétrarque à Arcois. Terre des poètes. 2. Le Tasse. 3. Arrivée de Madame la Duchesse de Berry. 4. Mademoiselle Le Béchu, le comte Lucchesi Palli. Discussion, dîner, Bugeaud le geôlier. Madame de Saint-Priest, Monsieur de Saint-Priest, Madame de Podenas, notre troupe, mon refus d'aller à Prague, je cède sur un mot. 5. Padoue, tombeau, manuscrit de Zanz. 6. Nouvelle inattendue, le gouverneur du royaume lombard-vénitien. 7. Lettre de Madame à Charles X et à Henri V, Monsieur de Montbel, mon billet au gouverneur. Je pars pour Prague. Chapitre 1. De Venise à Ferrare, du 16 au 17 septembre 1833. Arrivée de Madame de Beaufremont à Venise, le Cataggio, le duc de Modène, tombeau de Pétrarque à Arcois, terre des poètes. L'intervalle était immense entre ces rêveries et les vérités dans lesquelles je rentrais, en me présentant à l'hôtel de la princesse de Beaufremont. Il me fallait sauter de 1806, dont le souvenir venait m'occuper, à 1833, là où je me trouvais en réalité. Marco Polo tomba de la Chine à Venise, précisément après une absence de 27 ans. Madame de Beaufremont porte à merveille sur son visage et dans ses manières le nom de Montmorency. Elle aurait pu très bien, comme cette Charlotte, mère du grand Condé et de la duchesse de Longueville, être aimée de Henri IV. La princesse m'apprit que Madame la duchesse de Berry m'avait écrit de Pise une lettre que je n'avais pas reçue. Son Altesse royale arrivait à Ferrare, où elle m'espérait. Il m'en coûtait d'abandonner ma retraite. Une huitaine était encore nécessaire à ma revue. Je regrettais surtout de ne pouvoir mettre à fin l'aventure de Zanz. Mais mon temps appartenait à la mère de Henri V, et toujours, quand je suis une route, vient un heurt qui me jette dans un autre chemin. Je partis, laissant mes bagages à l'hôtel de l'Europe, comptant revenir avec madame. Je retrouvai ma calèche à Foussina. On la tira d'une vieille remise comme un joyau de garde-meuble de la couronne. Je quittai la rive qui prend peut-être son nom de la fourche à trois dents du roi de la mer, Fucina. Rendu à Padoue, je dis au postillon « Route de Ferrare ». Elle est charmante, cette route, jusqu'à Monselice, colline d'une élégance extrême. Vergers de figuiers, de mûriers et de saules, festonnés de vignes, prairies gaies, châteaux ruineux. Je passai devant le Cataggio, tout orné de soldats. L'abbé Langlais, fort érudit d'ailleurs, a pris ce manoir pour la Chine. Le Cataggio n'appartient pas à Angélique, mais au duc de Modène. Je me suis trouvé nez à nez avec son Altesse. Elle daignait se promener à pied sur le grand chemin. Ce duc est un rejeton de la race des princes inventés par Machiavel. Il a la fierté de ne pas reconnaître Louis-Philippe. Le village d'Arcois montre le tombeau de Pétrarque, chanté avec son site par Lord Byron. « Che fai, che pensi, che pur dietro guardi, nel tempo, che tornar non pote o mai, anima sconsolata. » Que fais-tu? Que penses-tu? Pourquoi regarder en arrière dans un temps qui ne peut jamais revenir, âme inconsolée? Tout ce pays, dans un diamètre de 40 lieues, est le seul indigène des écrivains et des poètes. Tite-Live, Virgile, Catulle, Arioste, Guarini, les Strozzi, les trois Bentivoglio, Bembo, Bartoli, Bojardo, Pindemonte, Varano, Monti. Une foule d'autres hommes célèbres ont été enfantés par cette terre des muses. Le Tasse même était bergamasque d'origine. Je n'ai vu des derniers poètes italiens qu'un des deux Pindemonte. Je n'ai connu ni Cesarotti ni Monti. J'aurais été heureux de rencontrer Pellico et Manzoni, rayons d'adieu de la gloire italienne. Les monts euganéens, que je traversais, se doraient de l'or du couchant avec une agréable variété de formes et une grande pureté de lignes. Un de ces monts ressemblait à la principale pyramide de Saqqara lorsqu'elle s'imprime au soleil tombant sur l'horizon de la Libye. Je continuai mon voyage la nuit par Rovigo. Une nappe de brouillard couvrait la terre. Je ne vis le Pô qu'au passage de Lago Scuro. La voiture s'arrêta. Le postillon appela le bac avec sa trompe. Le silence était complet. Seulement, de l'autre côté du fleuve, le hurlement d'un chien et les cascades lointaines d'un triple écho répondaient à son corps. Avant-scène de l'empire élyséen du Tasse, dans lequel nous allions entrer. Un froissement sur l'eau, à travers le brouillard et l'ombre, annonça le bac. Il glissait le long de la cordelle, soutenu sur des bateaux à l'ancre. Entre les 4 et 5 heures du matin, j'arrivai le 16 à Ferrare. Je descendis à l'hôtel des Trois Couronnes. Madame y était attendue. Mercredi 17. Son Altesse royale n'étant point arrivée, je visitai l'église de Saint-Paul. Je n'y ai vu que des tombes, du reste, pas une âme, hormis celle de quelques morts et la mienne qui ne vit guère. Au fond du chœur pendait un tableau du Guerchin. La cathédrale est trompeuse. Vous apercevez un front et des flancs où s'incrustent des bas-reliefs à sujets sacrés et profanes. Sur cet extérieur règnent encore d'autres ornements placés d'ordinaire à l'intérieur des édifices gothiques, comme rudenture, modillons arabes, soffites à nimbes, galeries à colonnettes, à ogives, à trèfles, ménagées dans l'épaisseur des murs. Vous entrez et vous restez ébahi à la vue d'une église neuve à voûte sphérique, à piliers massifs. Quelque chose de ces disparates existe en France au physique et au moral. Dans nos vieux châteaux, on pratique des cabinets modernes, force Nisara, alcôves et garde-robes. Pénétrez dans l'âme d'un bon nombre de ces hommes armoriés de noms historiques. Qu'y trouvez-vous ? Des inclinations d'antichambre. Je fus tout penaud à l'aspect de cette cathédrale. Elle semblait avoir été retournée une robe mise à l'envers, bourgeoise du temps de Louis XV, masquée en châtelaine du XIIe siècle. Ferrare, jadis tant agité de ses femmes, de ses plaisirs et de ses poètes, est presque déshabité. Là où les rues sont larges, elles sont désertes, et les moutons y pourraient paître. Les maisons délabrées ne se ravivent pas, ainsi qu'à Venise, par l'architecture, les vaisseaux, la mer et la gaieté native du lieu. À la porte de la Romagne, si malheureuse, Ferrare, sous le joug d'une garnison d'Autrichiens, a du visage d'un persécuté. Elle semble porter le deuil éternel du Tasse. Prête à tomber, elle se courbe comme une vieille. Pour seul monument du jour, sort à moitié de terre un tribunal criminel, avec des prisons non achevées. Qui mettra-t-on dans ces cachots récents ? La jeune Italie. Ces geôles neuves, surmontées de grues et bordées d'échafaudages, comme les palais de la ville de Didon, touchent à l'ancien cachot du chantre de la Jérusalem. Chapitre 2. Ferrare, 18 septembre 1833, le Tasse. S'il est une vie qui doive faire désespérer du bonheur pour les hommes de talent, c'est celle du Tasse. Le beau ciel que ses yeux regardaient en s'ouvrant au jour fut un ciel trompeur. « Mes adversités, dit-il, commencèrent avec ma vie. La cruelle fortune m'arracha des bras de ma mère. Je me souviens de ses baisers mouillés de larmes, de ses prières que les vents ont emportées. Je ne devais plus presser mon visage contre son visage. D'un pas mal assuré, comme Ascagne ou la jeune Camille, je suivis mon père errant et proscrit. C'est dans la pauvreté et l'exil que j'ai grandi. Torquato Tasso perdit à Ostie Bernardo Tasso. Torquato a tué Bernardo comme poète. Il l'a fait vivre comme père. Sorti de l'obscurité par la publication du Rinaldo, Tasse fut appelé à Ferrare. Il y débuta au milieu des fêtes du mariage d'Alphonse II avec l'archiduchesse Barbe. Il y rencontra Léonore, sœur d'Alphonse. L'amour et le malheur achevèrent de donner à son génie toute sa beauté. « Je vis, raconte le poète, peignant dans la meinte la première cour de Ferrare, je vis des déesses et des nymphes charmantes, sans voiles, sans nuages. Je me sentis inspiré d'une nouvelle vertu, d'une divinité nouvelle, et je chantais la guerre et les héros. » Le Tasse lisait les stances de la Gérusalemme à mesure qu'il les composait aux deux sœurs d'Alphonse, Lucrèce et Léonore. On l'envoya auprès du cardinal Hippolyte d'Este, fixé à la cour de France. Il mit en gage ses vêtements et ses meubles pour faire ce voyage, tandis que le cardinal qui l'honorait de sa présence faisait à Charles IX le fastueux cadeau de 100 chevaux barbes avec leurs écuyers arabes, superbement vêtus. Laissé d'abord dans les écuries, le Tasse fut ensuite présenté au roi poète, ami de Ronsard. Dans une lettre qui nous est restée, il juge les Français avec dureté. Il composa quelques vers de sa Gérusalemme dans une abbaye d'hommes, en France, dont le cardinal Hippolyte était pourvu. C'était Chalys, près d'Ermenonville, où devait rêver et mourir Jean-Jacques Rousseau. Dante aussi avait passé obscurément dans Paris. Le Tasse retourna en Italie en 1571 et ne fut point témoin de la Saint-Barthélemy. Il se rendit directement à Rome et de là revint à Ferrare. La meinte fut jouée avec un grand succès. Tout en devenant le rival d'Arioste, l'auteur de Renaud admirait à un tel point l'auteur de Roland qu'il refusait les hommages du neveu de ce poète. « Ce laurier que vous m'offrez, lui écrivait-il, le jugement des savants, celui des gens du monde, et le mien même, l'ont déposé sur la tête de l'homme à qui le sang vous lie. Prosterné devant son image, je lui donne les titres les plus honorables que puisse me dicter l'affection et le respect. Je le proclamerai hautement mon père, mon seigneur et mon maître. » Cette modestie, si inconnue de notre temps, ne désarma point la jalousie. Torquato avait vu les fêtes données par Venise à Henri III revenant de Pologne, lorsqu'on imprima furtivement un manuscrit de la Jérusalem. Les minutieuses critiques des amis, dont le Tasse consultait le goût, le vinrent alarmer. Peut-être s'y montra-t-il trop sensible, mais peut-être avait-il bâti sur l'espérance de sa gloire le succès de ses amours. Il se crut environné de pièges et de trahisons. Il fut obligé de défendre sa vie. Le séjour de Belriguardo, où Goethe évoque son ombre, ne le put calmer. Guillemets. De même que le rossignol, dit le grand poète allemand faisant parler le grand poète italien, il exhalait de son sein malade d'amour l'harmonie de ses plaintes. Ses chants délicieux, sa mélancolie sacrée, captivait l'oreille et le cœur. Qui a plus de droits à traverser mystérieusement les siècles que le secret d'un noble amour, confié au secret d'un chant sublime? Qu'il est charmant, entre parenthèses, dit toujours Goethe, interprète des sentiments de Léonore. Qu'il est charmant de se contempler dans le beau génie de cet homme, de l'avoir à ses côtés dans l'éclat de cette vie, d'avancer avec lui d'un pas facile vers l'avenir. Dès lors, le temps ne pourra rien sur toi, Léonore. Vivante dans les chants du poète, tu seras encore jeune, encore heureuse, quand les années t'auront emporté dans leur cours. » Fin des guillemets. Le chantre d'Herminie conjure Léonore, toujours dans les vers du poète de la Germanie, de le reléguer dans une de ses villas les plus solitaires. « Souffrez, lui dit-il, que je sois votre esclave. Comme je soignerai vos arbres, avec quelles précautions en automne je couvrirai votre citronnier de plantes légères. Sous le vert des couches, j'élèverai de belles fleurs. » Le récit des amours du Tasse était perdu, Goethe l'a retrouvé. Les chagrins des muses et les scrupules de la religion commencèrent à altérer la raison du Tasse. On lui fit subir une détention passagère, il s'échappa presque nu, et garé dans les montagnes, il emprunta les haillons d'un berger, et déguisé en pâtre, il arriva chez sa sœur Cornélie. Les caresses de cette sœur et l'attrait du pays natal apaisèrent un moment ses souffrances. « Je voulais, disait-il, me retirer à Sorrente, comme dans un port paisible, quasi in porto di quiete. Mais il ne put rester où il était né. Un charme l'attirait à Ferrare, l'amour et la patrie. Reçu froidement du duc Alphonse, il se retira de nouveau. Il erra dans les petites cours de Mantoue, d'Urbino, de Turin, chantant pour payer l'hospitalité. Il disait au Métauro, ruisseau natal de Raphaël, « Faible, mais glorieux enfant de l'Apennin, voyageur vagabond, je viens chercher sur tes bords la sûreté et mon repos. » Armide avait passé au berceau de Raphaël. Elle devait présider aux enchantements de la Farnésine. Surpris par un orage aux environs de Verseilles, le Tasse célébra la nuit qu'il avait passée chez un gentilhomme dans le beau dialogue du père de famille. À Turin, on lui refusa l'entrée des portes tant il était dans un état misérable. Instruit qu'Alphonse allait contracter un nouveau mariage, il reprend le chemin de Ferrare. Un esprit divin s'attachait au pas de ce dieu caché sous l'habit des pasteurs d'Admète. Il croyait voir cet esprit et l'entendre. Un jour, étant assis près du feu et apercevant la lumière du soleil sur une fenêtre, « Ecco l'amico spirito che cortesemente è venuto a favele armi. Voilà l'esprit ami qui est venu courtoisement me parler. » Et Torquato causait avec un rayon de soleil. Il rentra dans la ville fatale comme l'oiseau fasciné se jette dans la gueule du serpent. Méconnu et repoussé des courtisans, outragé par les domestiques, il se répandit en plainte. Et Alphonse le fit enfermer dans une maison de fous à l'hôpital Sainte-Anne. Alors le poète écrivait à un de ses amis, Guillemet, « Sous le poids de mes infortunes, j'ai renoncé à toute pensée de gloire. Je m'estimerais heureux si je pouvais seulement éteindre la soif qui me dévore. » L'idée d'une captivité sans terme et l'indignation des mauvais traitements que je subis augmentent mon désespoir. La saleté de ma barbe, celle de mes cheveux et de mes vêtements me rendent un objet de dégoût pour moi-même. » Fin des guillemets. Le prisonnier implorait toute la terre et jusqu'à son impitoyable persécuteur. Il tirait de sa lyre des accents qui auraient dû faire tomber les murs dont on entourait ses misères. « Piango il morir, non piango il morir solo. » Ma il modo, misaria di conforto aver la tomba, qu'altra mole in alzar, credea cocarmi. Je pleure le mourir, je ne pleure pas seulement le mourir, mais la manière dont je meurs. Ce sera un secours d'avoir la tombe à celui qui croyait élever d'autres monuments par ses vers. Lord Byron a composé un poème des Lamentations du Tasse, mais il ne se peut quitter et se substitue partout aux personnages qu'il met en scène. Comme son génie manque de tendresse, ses lamentations ne sont que des imprécations. Le Tasse adressa au Conseil des Anciens de Bergame cette supplique. Guillemet, Torquato Tasso, bergamasque non seulement d'origine mais d'affection, ayant d'abord perdu l'héritage de son père, la dot de sa mère, et, entre parenthèses, après le servage de beaucoup d'années et les fatigues d'un temps bien long, n'ayant encore jamais perdu, au milieu de tant de misères, la foi qu'il a dans cette cité, Bergame, ose lui demander assistance. Qu'elle conjure le duc de Ferrare, jadis mon protecteur et mon bienfaiteur, de me rendre à ma patrie, à mes parents et à moi-même. L'infortuné Tasso supplie donc vos seigneuries, les magistrats de Bergame, d'envoyer Monseigneur Licino ou quelque autre pour traiter de ma délivrance. La mémoire de leurs bienfaits ne finira qu'avec ma vie. Affezionatissimo servidore, Torquato Tasso, prigione e infermo nel ospedal di Sant'Anna in Ferrara. On refusait aux Tasso de l'encre, des plumes, du papier. Il avait chanté le magnanime Alphonse, et le magnanime Alphonse plongeait au fond d'une loge d'aliénés celui qui répandit sur sa tête ingrate un éclat impérissable. Dans un sonnet plein de grâce, le prisonnier supplie une chatte de lui prêter la luisance de ses yeux pour remplacer la lumière dont on l'a privée. Inoffensive raillerie qui prouve la mansuétude du poète et l'excès de sa détresse. Guillemets. Comme sur l'océan qu'infeste et obscurcit la tempête, le pilote fatigué lève la tête, durant la nuit, vers les étoiles dont le pôle resplendit. Ainsi fais-je, ô belle chatte, dans ma mauvaise fortune. Tes yeux me semblent deux étoiles qui brillent devant moi. Ô chatte, lampe de mes veilles, ô chatte bien-aimée. Si Dieu vous garde de la bastonnade, si le ciel vous nourrit de chair et de lait, donnez-moi de la lumière pour écrire ces vers. Fatemi luce, escriver queste carmi. Fin des guillemets. La nuit, le Tasso figurait entendre des bruits étranges, des tintements de cloches funèbres. Des spectres le tourmentaient. « Je n'en puis plus, s'écriait-il, je succombe !» Attaqué d'une grave maladie, il crut voir la Vierge le sauvant par miracle. Egro io languiva ed alto sono avvinto. Giacea con guancia di pallor dipinta. Quando di luce incoronata, Maria, pronta scendesti al mio dolore. Malade, je languissais, vaincu du sommeil. Je gisais, la pâleur répandue sur mes joues, quand, de lumière couronnée, Marie, tu descendis rapidement à ma douleur. Montaigne visita le Tasso réduit à cet excès d'adversité et ne lui témoigna aucune compassion. À la même époque, Camoens terminait sa vie dans un hospice à Lisbonne. Qui le consolait mourant sur un grabat? Les vers du prisonnier de Ferrare. L'auteur captif de la Jérusalem, admirant l'auteur mendiant des Lusiades, disait à Vasco de Gama, « Réjouis-toi d'être chanté par le poète qui tant déploya son vol glorieux, que tes vaisseaux rapides n'allèrent pas aussi loin. Tant'oltre stende il glorioso volo, che i tuoi palmati lengdi andar men lungo. » Ainsi retentissait la voix de l'Éridan au bord du Tage. Ainsi, à travers les mers, se félicitait d'un hôpital à l'autre, à la honte de l'espèce humaine, deux illustres patients de même génie et de même destinée. Que de rois, de grands et de sots, aujourd'hui noyés dans l'oubli, se croyant, vers la fin du XVIe siècle, des personnages dignes de mémoire, ignoraient jusqu'au nom du Tasso et de Camoens. En 1754, on lut pour la première fois le nom de Washington dans le récit d'un obscur combat donné dans les forêts entre une troupe de Français, d'Anglais et de Sauvages. Quel est le commis à Versailles ou le pourvoyeur du parc aux cerfs? Quel est surtout l'homme de cour ou d'académie qui aurait voulu changer son nom à cette époque contre le nom de ce planteur américain? Entre parenthèses, mes études historiques. Note de l'auteur. Ferrare, 18 septembre 1833. L'envie s'était empressée de répandre son poison sur des plaies ouvertes. L'Académie de la Crusca avait déclaré que la Jérusalem délivrée était une lourde et froide compilation d'un style obscur et inégal, pleine de vers ridicules, de mots barbares, ne rachetant par aucune beauté ses innombrables défauts. le fanatisme pour Arioste avait dicté cet arrêt. Mais le cri de l'admiration populaire étouffa les blasphèmes académiques. Il ne fut plus possible au duc Alphonse de prolonger la captivité d'un homme qui n'était coupable que de l'avoir chanté. Le pape réclama la délivrance de l'honneur de l'Italie. Sorti de prison, le Tasse n'en fut pas plus heureux. Léonore était morte. Il se traîna de ville en ville avec ses chagrins. À Lorette, près de mourir de faim, il fut au moment, dit un de ses biographes, de tendre la main qui avait bâti le palais d'Armide. À Naples, il éprouva quelques doux sentiments de patrie. « Voilà, disait-il, les lieux d'où je suis parti, enfant. Après tant d'années, je reviens blanchi, malade à ma rive native. Et donde, partii fanciullo, or dopo tanti lustri, torno, canuto et egro allié native esponde. » Il préféra à des demeures somptueuses une cellule au couvent de Montoliveto. Dans un voyage qu'il fit à Rome, la fièvre l'ayant saisi, un hôpital fut encore son refuge. De Rome et de Florence, revenu à Naples, s'en prenant de ses mots à son poème immortel, il le refit et le gâta. Il commença ses chants d'Elie sette giornate del mondo creato, sujet traité par du Bartas. Le Tasse faisait sortir Ève du sein d'Adam, tandis que Dieu arrosait d'un sommeil paisible les membres de notre premier père assoupi. Ed irrigo di placida quiete, tutte le membra al sonacchioso. Le poète amollit l'image biblique, et dans les douces créations de sa lyre, la femme n'est plus que le premier songe de l'homme. Le chagrin de laisser inachevé un pieux travail, qu'il regardait comme un hymne expiatoire, détermina le Tasse mourant à condamner à la destruction ses chants profanes. Moins respecté de la société que des voleurs, le docte reçut de Marc Ciara, fameux chef de Condottieri, l'offre d'une escorte pour le conduire à Rome. Présenté au Vatican, le pape lui adressa ces mots : « Torquato, vous honorerez cette couronne qui honora ceux qui la portèrent avant vous. » Éloge que la postérité a confirmé. Le Tasse répondait aux éloges en répétant ce vers de Sénèque : « Magnifica verba mors prope ad mota excutit. » La mort va rabattre bientôt de ces paroles magnifiques. Attaqué d'un mal qu'il pressentait devoir guérir tous les autres, il se retira au couvent de Saint-Onufre le 1er d'avril 1595. Il monta à son dernier asile pendant une tempête de vent et de pluie. Les moines le reçurent à la porte où s'effacent aujourd'hui les fresques du Dominicain. Il salua les pères. Je viens mourir au milieu de vous, cloîtres hospitaliers, déserts de religion et de poésie. Vous avez prêté votre solitude à Dante proscrit et au Tasse mourant. Tous les secours furent inutiles. À la septième matinée de la fièvre, le médecin du pape déclara au malade qu'il conservait peu d'espérance. Le Tasse l'embrassa et le remercia de lui avoir annoncé une aussi bonne nouvelle. Ensuite il regarda le ciel et avec une abondante effusion du cœur, il rendit grâces au Dieu des miséricordes. Sa faiblesse augmentant, il voulut recevoir l'Eucharistie à l'église du monastère. Il s'y traîna, appuyé sur les religieux, et revint porté dans leurs bras. Lorsqu'il fut étendu de nouveau sur sa couche, le prieur l'interrogea à propos de ses dernières volontés. « Je me suis peu soucié des biens de la fortune durant la vie. J'y tiens encore moins à la mort. Je n'ai point de testament à faire. Où marquez-vous votre sépulture ? Dans votre église, si vous daignez tant honorer ma dépouille. Voulez-vous dicter vous-même votre épitaphe ? Or, se tournant vers son confesseur, « Mon père, écrivez, je rends mon âme à Dieu qui me l'a donnée, et mon corps à la terre dont il fut tiré. Je lègue à ce monastère l'image sacrée de mon Rédempteur. » Il prit dans ses mains un crucifix qu'il avait reçu du pape et le pressa sur ses lèvres. 7 jours s'écoulèrent encore. Le chrétien éprouvé, ayant sollicité la faveur des saintes huiles, survint le cardinal Shinchyo, apportant la bénédiction du souverain pontife. Le moribond en montra une grande joie. « Voici, dit-il, la couronne que j'étais venu chercher à Rome. J'espère triompher demain avec elle. » Virgile fit prier Auguste de jeter au feu l'Énéide. Le Tasse supplia Shinchyo de brûler la Jérusalem. Ensuite, il désira rester seul à seul avec son crucifix. Le cardinal n'avait pas gagné la porte que ses larmes, violemment retenues, débordèrent. La cloche sonna l'agonie, et les religieux, psalmodiant les prières des morts, pleurèrent et se lamentèrent dans les cloîtres. À ce bruit, Torquato dit au charitable solitaire, il lui semblait les voir errer autour de lui comme des ombres. « Mes amis, vous me croyez laissés, je vous précède seulement. » Dès lors, il n'eut d'entretien qu'avec son confesseur et quelques pères de grande doctrine. Près de rendre le dernier soupir, on recueillit de sa bouche cette stance, fruit de l'expérience de sa vie. Si la mort n'était pas, il n'y aurait au monde rien de plus misérable que l'homme. Le 25 avril 1595, vers le milieu du jour, le poète s'écria « In manus tuas domine ». Le reste du verset fut à peine entendu, comme prononcé par un voyageur qui s'éloigne. L'auteur de la Henriade s'éteint à l'hôtel de Villette sur un quai de la Seine et repousse les secours de l'Église. Le chantre de la Jérusalem expire chrétien à Saint-Onuphre. Comparez, et voyez ce que la foi ajoute de beauté à la mort. Tout ce qu'on rapporte du triomphe posthume du Tasse me paraît suspect. Sa mauvaise fortune eut encore plus d'obstination qu'on ne l'a supposé. Il ne mourut point à l'heure désignée de son triomphe. Il survécut 25 jours à ce triomphe projeté. Il ne mentit point à sa destinée. Il ne fut jamais couronné, pas même après sa mort. On ne présenta point ses restes au Capitole, en habit de sénateur, au milieu du concours et des larmes du peuple. Il fut enterré, ainsi qu'il l'avait ordonné, dans l'église de Saint-Onuphre. La pierre dont on le recouvrit, toujours d'après son désir, ne présentait ni date ni nom. 10 ans après, Manso, marquis d'Elia Villa, dernier ami du Tasse et hôte de Milton, composa l'admirable épitaphe « Hic jacet Torquatus Tassus ». Manso parvint difficilement à la faire inciser, car les moines, religieux observateurs des volontés testamentaires, s'opposaient à toute inscription. Et pourtant, sans « Hic jacet » ou les mots « Torquati Tassi Ossa », les cendres du Tasse eussent été perdus à l'ermitage du Janicule, comme l'ont été celles du Poussin à San Lorenzo in Lucina. Le cardinal Shinchyo forma le dessein d'ériger un mausolée au chantre du Saint-Sépulcre, dessein avorté. Le cardinal Bevilacqua rédigea une pompeuse épitaphe destinée à la table d'un autre mausolée futur, et la chose en resta là. 2 siècles plus tard, le frère de Napoléon s'occupa d'un monument à Sorrento. Joseph troqua bientôt le berceau du Tasse pour la tombe du Cid. Enfin, de nos jours, une grande décoration funèbre est commencée en mémoire de l'Homère italien, jadis pauvre et errant comme l'Homère grec. L'ouvrage s'achèvera-t-il ? Pour moi, je préfère au tumulus de marbre la petite pierre de la chapelle dont j'ai parlé ainsi dans l'itinéraire. Guillemets. Je cherchais, à Venise, 1806, dans une église déserte, le tombeau de ce dernier peintre, le Titien, et j'eus quelque peine à le trouver. La même chose m'était arrivée à Rome, en 1803, pour le tombeau du Tasse. Après tout, les cendres d'un poète religieux et infortuné ne sont pas trop mal placées dans un ermitage. Le chantre de la Jérusalem semble s'être réfugié dans cette sépulture ignorée, comme pour échapper aux persécutions des hommes. Il remplit le monde de sa renommée et repose lui-même inconnu sous l'oranger. Entre parenthèses, j'ai eu raison de dire l'oranger. c'est un oranger qui est dans les préaux intérieurs de Saint-Onufre. Note de Paris 1840, note de l'auteur. Et repose lui-même inconnu sous l'oranger de Saint-Onufre. Fin des guillemets. La commission italienne, chargée des travaux nécrolithes, me pria de quêter en France et de distribuer les indulgences des muses à chaque fidèle donateur de quelques deniers au monument du poète. Juillet 1830 est arrivé. Ma fortune et mon crédit ont pris de la destinée des cendres du Tasse. Ces cendres semblent posséder une vertu qui rejette toute opulence, repousse tout éclat, se dérobe à tous honneurs. Il faut de grands tombeaux aux petits hommes et de petits tombeaux aux grands. Le Dieu qui rit de tous mes songes, me précipitant du janicule avec les vieux pères conscrits, m'a ramené d'une autre manière auprès du Tasse. Ici, je puis juger encore mieux du poète dont les trois filles sont nées à Ferrare, Armide, Herminie et Clorinde. Qu'est-ce aujourd'hui que la maison d'Este? Qui pense au Obiso, au Nicolas, au Hercule? Quel nom reste dans ces palais? Le nom de Léonore. Que cherche-t-on à Ferrare? La demeure d'Alphonse? Non, la prison du Tasse. Où va-t-on professionnellement de siècle en siècle? Au sépulcre du persécuteur? Non, au cachot du persécuté. Le Tasse remporte dans ces lieux une victoire plus mémorable. Il fait oublier l'Arioste. L'étranger quitte les eaux du chantre de Roland au musée et court chercher la loge du chantre de Renaud à Sainte-Anne. Le sérieux convient à la tombe. On abandonne l'homme qui a ri pour l'homme qui a pleuré. Pendant la vie, le bonheur peut avoir son mérite. Après la mort, il perd son prix. Aux yeux de l'avenir, il n'y a de beau que les existences malheureuses. À ces martyrs de l'intelligence, impitoyablement immolés sur la terre, les adversités sont comptées en accroissement de gloire. Ils dorment au sépulcre avec leurs immortelles souffrances, comme des rois avec leurs couronnes. Nous autres, vulgaires infortunés, nous sommes trop peu de choses pour que nos peines deviennent dans la postérité la parure de notre vie. Dépouillé de tout en achevant ma course, ma tombe ne me sera pas un temple, mais un lieu de rafraîchissement. Je n'aurai point le sort du Tasse. Je tromperai les tendres et harmonieuses prédictions de l'amitié. Le Tasse, errant de ville en ville, un jour accablé de ses maux, s'assit près du laurier fertile, qui, sur la tombe de Virgile, étend toujours ses verts rameaux, etc. Je me hâtais de porter mes hommages à ce fils des muses, si bien consolé par ses frères. Riche ambassadeur, j'avais souscrit pour son mausolée à Rome. Indigent pèlerin à la suite de l'exil, j'allais m'agenouiller à sa prison de Ferrare. Je sais qu'on élève des doutes assez fondés sur l'identité des lieux, mais comme tous les vrais croyants, je nargue l'histoire. Cette crypte, quoi qu'on en dise, est l'endroit même que le Pazzo per Amore habita 7 années entières. On passait nécessairement par ces cloîtres. On arrivait à cette geôle où le jour se glissait à travers les barreaux de fer d'un soupirail, où la voûte rampante qui glace votre tête dégoutte l'eau salpêtrée sur un sol humide qui paralyse vos pieds. Au mur, en dehors de la prison, et tout autour du guichet, on lit les noms des adorateurs du Dieu. La statue de même nom, frémissante d'harmonie sous le toucher de l'aurore, était couverte des déclarations des divers témoins du prodige. Je n'ai point charbonné mon ex-voto. Je me suis caché dans la foule dont les prières secrètes doivent être, en raison de leur humilité même, plus agréables au ciel. Les bâtiments dans lesquels s'enclôt aujourd'hui la prison du Tasse dépendent d'un hôpital ouvert à toutes les infirmités. On les a mises sous la protection des saints, Sancto Torquato Sacrum. À quelque distance de la loge bénie est une cour délabrée. Au milieu de cette cour, le concierge cultive un parterre environné d'une haie de mauve. La palissade, d'un vert tendre, était chargée de larges et belles fleurs. J'ai cueilli une de ces roses de la couleur du deuil des rois et qui me semblait croître au pied d'un calvaire. Le génie est un Christ. Méconnu, persécuté, battu de verges, couronné d'épines, mis en croix pour et par les hommes, il meurt en leur laissant la lumière et ressuscite adoré. Chapitre 3. Ferrare, 18 septembre 1833. Arrivée de Madame la Duchesse de Berry. Sortie le 18 au matin, en revenant aux Trois Couronnes, j'ai trouvé la rue encombrée de peuple. Les voisins béaient aux fenêtres. Une garde de 100 hommes des troupes autrichiennes et papalines occupait l'auberge. Le corps des officiers de la garnison, les magistrats de la ville, les généraux, le prolégat, attendaient Madame, dont un courrier aux armes de France avait annoncé l'arrivée. L'escalier et les salons étaient ornés de fleurs. Oh, que ne fut plus belle réception pour une exilée. À l'apparition des voitures, le tambour battit au champ, la musique des régiments éclata, les soldats présentèrent les armes. Madame, parmi la presse, eut peine à descendre de sa calèche arrêtée à la porte de l'hôtellerie. J'étais accouru. Elle me reconnut au milieu de la cohue. À travers les autorités constituées et les mendiants qui se jetaient sur elle, elle me tendit la main en me disant « Mon fils est votre roi, aidez-moi donc à passer. » Je ne la trouvais pas trop changée, bien qu'amaigrie. Elle avait quelque chose d'une petite fille éveillée. Je marchais devant elle, elle donnait le bras à Monsieur de Lucchesi. Madame de Podenas la suivait. Nous montâmes les escaliers et entrâmes dans les appartements entre deux rangs de grenadiers, au fracas des armes, au bruit des fanfares, au vivat des spectateurs. On me prenait pour le majordome, on s'adressait à moi pour être présenté à la mère de Henri V. Mon nom se liait à ces noms dans l'esprit de la foule. Il faut savoir que Madame, depuis Palerme jusqu'à Ferrare, a été reçue avec les mêmes respects, malgré les notes des envoyés de Louis-Philippe. M. de Breuil, ayant eu la bravoure de demander au pape le renvoi de la proscrite, le cardinal Bernetti répondit « Rome a toujours été l'asile des grandeurs tombées. Si dans ces derniers temps la famille de Bonaparte trouva un refuge auprès du père des fidèles, à plus forte raison, la même hospitalité doit-elle être exercée envers la famille des rois très chrétiens. » Je crois peu à cette dépêche, mais j'étais vivement frappé d'un contraste. En France, le gouvernement prodigue des insultes à une femme dont il a peur. En Italie, on ne se souvient que du nom, du courage et des malheurs de Madame la Duchesse de Berry. Je fus obligé d'accepter mon rôle improvisé de premier gentilhomme de la chambre. La princesse était extrêmement drôle. Elle portait une robe de toile grisâtre serrée à la taille. Sur sa tête, une espèce de petit bonnet de veuve ou de béguin d'enfant ou de pensionnaire en pénitence. Elle allait, çà et là, comme un hanneton. Elle courait à l'étourdie, d'un air assuré, au milieu des curieux, de même qu'elle se dépêchait dans les bois de la Vendée. Elle ne regardait et ne reconnaissait personne. J'étais obligé de l'arrêter irrespectueusement par sa robe ou de lui barrer le chemin en lui disant « Madame, voilà le commandant autrichien, l'officier en blanc. Madame, voilà le commandant des troupes pontificales, l'officier en bleu. Madame, voilà le prolégat, le grand jeune abbé en noir. » Elle s'arrêtait, disait quelques mots en italien ou en français, pas trop juste, mais rondement, franchement, gentiment, et qui, dans leur déplaisance, ne déplaisait pas. C'était une espèce d'allure ne ressemblant à rien de connu. J'en sentais presque de l'embarras, et pourtant je n'éprouvais aucune inquiétude sur l'effet produit par la petite échappée des flammes et de la geôle. Une confusion comique survenait. Je dois dire une chose avec toute la réserve de la modestie. Le vain bruit de ma vie augmente à mesure que le silence réel de cette vie s'accroît. Je ne puis descendre aujourd'hui dans une auberge, en France ou à l'étranger, que je n'y sois immédiatement assiégé. Pour la vieille Italie, je suis le défenseur de la religion. pour la jeune, le défenseur de la liberté. Pour les autorités, j'ai l'honneur d'être la sua eccellenza GIA ambasciatore di Francia à Vérone et à Rome. Des dames, toutes sans doute d'une rare beauté, ont prêté la langue d'Angélique et d'Aquilan le Noir à la Floridienne Atala et au Maure à Ben Hamet. Je vois donc arriver les écoliers, de vieux abbés à larges calottes, des femmes dont je remercie les traductions et les grâces, puis des mendicanti trop bien élevés pour croire qu'un ci-devant ambassadeur est aussi gueux que leur seigneurie. Or, mes admirateurs étaient accourus à l'hôtel des Trois Couronnes, avec la foule attirée par Madame la Duchesse de Berry. Ils me rencognaient dans l'angle d'une fenêtre et me commençaient une harangue qu'ils allaient achever à Marie-Caroline. Dans le trouble des esprits, les deux troupes se trompaient quelquefois de patron et de patronne. J'étais salué de Votre Altesse Royale, et Madame me raconta qu'on l'avait complimenté sur le génie du christianisme. Nous échangions nos renommées. La princesse était charmée d'avoir fait un ouvrage en 4 volumes, et moi j'étais fier d'avoir été pris pour la fille des rois. Tout à coup, la princesse disparut. Elle s'en alla à pied avec le comte Lucchesi voir la loge du Tasse. Elle se connaissait en prison. La mère de l'orphelin banni, de l'enfant héritier de Saint-Louis, Marie-Caroline sortit de la forteresse de Blaye, ne cherchant dans la ville de René de France que le cachot d'un poète, est une chose unique dans l'histoire de la fortune et de la gloire humaine. Les vénérables de Prague auraient 100 fois passé à Ferrare sans qu'une idée pareille leur fût venue dans la tête. Mais Madame de Berry est napolitaine, elle est compatriote du Tasse, qui disait « Ô desiderio di Napoli, come l'anime ben dispote del paradiso ». J'ai désir de Naples, comme les âmes bien disposées ont désir du paradis. J'étais dans l'opposition et en disgrâce. Les ordonnances m'y tenaient clandestinement au château et reposaient encore en joie et en secret au fond des cœurs. Un jour, la duchesse de Berry aperçut une gravure représentant le chantre de la Jérusalem au barreau de sa loge. « J'espère, dit-elle, que nous verrons bientôt comme cela Chateaubriand. » Parole de prospérité dont il ne faut pas plus tenir compte que d'un propos échappé dans l'ivresse. Je devais rejoindre Madame au cachot même du Tasse, après avoir subi pour elle les prisons de la police. Quelle élévation de sentiments dans la noble princesse! Quelle marque d'estime elle m'a donnée en s'adressant à moi, à l'heure de son infortune, après le souhait qu'elle avait formé. Si son premier vœu élevait trop haut mes talents, sa confiance s'est moins trompée sur mon caractère. Chapitre 4. Ferrare, 18 septembre 1833. Mademoiselle Le Béchu, le comte Lucchesi Palli, discussion, dîner, Bugeaud le geôlier, Madame de Saint-Priest, Monsieur de Saint-Priest, Madame de Podenas, notre troupe, mon refus d'aller à Prague, je cède sur un mot. Monsieur de Saint-Priest, Madame de Saint-Priest et Monsieur Sala arrivèrent. Celui-ci avait été officier dans la garde royale et il a été substitué dans mes affaires de librairie à Monsieur Delois, major dans la même garde. 2 heures après l'arrivée de Madame, j'avais vu Mademoiselle Le Béchu, ma compatriote. Elle s'était empressée de me dire les espérances qu'on voulait bien fonder sur moi. Mademoiselle Le Béchu figure dans le procès du Carlo Alberto. Revenue de sa poétique visitation, la duchesse de Berry m'a fait appeler. Elle m'attendait avec Monsieur le comte Lucchesi et Madame de Podenas. Le comte Lucchesi Palli est grand et brun. Madame le dit Tancrède par les femmes. Ses manières, avec la princesse, sa femme, sont un chef-d'œuvre de convenance ni humble ni arrogante. Mélange respectueux de l'autorité du mari et de la soumission du sujet. Madame m'a sur-le-champ parlé d'affaires. Elle m'a remercié de m'être rendue à son invitation. Elle m'a dit qu'elle allait à Prague, non seulement pour se réunir à sa famille, mais pour obtenir l'acte de majorité de son fils. Puis elle m'a déclaré qu'elle m'emmenait avec elle. Cette déclaration à laquelle je ne m'étais pas attendu me consterna. Retourner à Prague. Je présentai les objections qui se présentèrent à mon esprit. Si j'allais à Prague avec madame, et si elle obtenait ce qu'elle désire, l'honneur de la victoire n'appartiendrait pas tout entier à la mère de Henri V, et ce serait un mal. Si Charles X s'obstinait à refuser l'acte de majorité, moi présent, comme j'étais persuadé qu'il le ferait, je perdrais mon crédit. Il me semblait donc meilleur de me garder comme une réserve dans le cas où madame manquerait sa négociation. Son Altesse royale combattit ses raisons. Elle soutint qu'elle n'aurait aucune force à Prague si je ne l'accompagnais, que je faisais peur à ses grands-parents, qu'elle consentait à me laisser l'éclat de la victoire et l'honneur d'attacher mon nom à l'avènement de son fils. Monsieur et madame de Saint-Priest entrèrent au milieu de ce débat et insistèrent dans le sens de la princesse. Je persistai dans mon refus, on annonça le dîner. Madame fut très gaie. Elle me raconta ses contestes à Blaye avec le général Bugeaud de la façon la plus amusante. Bugeaud l'attaquait sur la politique et se fâchait. Madame se fâchait plus que lui, il criait comme deux aigles et elle le chassait de la chambre. Son Altesse royale s'abstint de certains détails, dont elle m'aurait peut-être fait part si j'étais restée avec elle. Elle ne lâcha pas Bugeaud, elle l'accommodait de toutes pièces. « Vous savez, me dit-elle, que je vous ai demandé 4 fois ?» Bugeaud fit passer mes demandes à Dargoux. Dargoux répondit à Bugeaud qu'il était une bête, qu'il aurait dû refuser tout d'abord votre admission sur l'étiquette du sac. « Il est de bon goût, ce monsieur Dargoux. » Madame appuyait sur ces deux mots pour rimer avec son accent italien. Cependant, le bruit de mon refus s'étant répandu, inquiéta nos fidèles. Mademoiselle Le Béchu vint après le dîner me chapitrer dans ma chambre. Monsieur de Saint-Priest, homme d'esprit et de raison, me dépêcha d'abord Monsieur Sala, puis il le remplaça et me pressa à son tour. On avait fait partir Monsieur de La Ferronnays à Artchin, afin de lever les premières difficultés. Monsieur de Montbel était arrivé, il était chargé d'aller à Rome lever le contrat de mariage, rédigé en bonne et due forme, et qui était déposé entre les mains du cardinal Zurla. En supposant, a continué Monsieur de Saint-Priest, que Charles X se refuse à l'acte de majorité, ne serait-il pas bon que madame obtînt une déclaration de son fils? Quelle devrait être cette déclaration? Une note fort courte, ai-je répondu, dans laquelle Henri protesterait contre l'usurpation de Philippe. Monsieur de Saint-Priest a porté mes paroles à madame. Ma résistance continuait d'occuper les entours de la princesse. Madame de Saint-Priest, par la noblesse de ses sentiments, paraissait la plus vive dans ses regrets. Madame de Podenas n'avait point perdu l'habitude de ce sourire serein qui montre ses belles dents. Son calme était plus sensible au milieu de notre agitation. Nous ne ressemblions pas mal à une troupe ambulante de comédiens français jouant à Ferrare. Par la permission de messieurs les magistrats de la ville, la princesse fugitive ou la mère persécutée. Le théâtre présentait à droite la prison du Tasse, à gauche la maison de l'Arioste. Au fond, le château où se donnèrent les fêtes de Léonore et d'Alphonse. Cette royauté sans royaume, ces émois d'une cour renfermée dans 2 calèches errantes, laquelle avait le soir pour palais l'hôtel des 3 couronnes, ces conseils d'État tenus dans une chambre d'auberge, tout cela complétait la diversité des scènes de ma fortune. Je quittais dans les coulisses mon aume de chevalier et je reprenais mon chapeau de paille. Je voyageais avec la monarchie de droit, roulée dans mon porte-manteau, tandis que la monarchie de fait étalait ses fanfreluches aux Tuileries. Voltaire appelle toutes les royautés à passer leur carnaval à Venise avec Achmed III, Ivan, empereur de toutes les Russies, Charles-Édouard, roi d'Angleterre, les 2 rois des Polacres, Théodore, roi de Corse, et 4 altesses sérénissimes. Sire, la chaise de votre majesté est à Padoue et la barque est prête. Sire, votre majesté partira quand elle voudra. Ma foi, sire, on ne veut plus faire crédit à votre majesté, ni à moi non plus, et nous pourrions bien être coffrés cette nuit. Pour moi, je dirais comme Candide, « Messieurs, pourquoi êtes-vous tous rois ? Je vous avoue que ni moi ni Martin ne le sommes. » Il était 11 heures du soir, j'espérais avoir gagné mon procès et obtenu de madame mon laissez-passer. J'étais loin du compte. Madame ne quitte pas si vite une volonté. Elle ne m'avait point interrogé sur la France, parce que, préoccupée de ma résistance à son dessein, c'était là son affaire du moment. Monsieur de Saint-Priest, entrant dans ma chambre, m'apporta la minute d'une lettre que son Altesse royale se proposait d'écrire à Charles X. « Comment, m'écriai-je, madame persiste dans sa résolution. Elle veut que je porte cette lettre, mais il me serait impossible, même matériellement, de traverser l'Allemagne. Mon passeport n'est que pour la Suisse et l'Italie. » « Vous nous accompagnerez jusqu'à la frontière d'Autriche, » répartit monsieur de Saint-Priest. « Madame vous prendra dans sa voiture. La frontière franchie, vous rentrerez dans votre calèche et vous arriverez 36 heures avant nous. » Je courus chez la princesse, je renouvelai mes instances. La mère de Henri V me dit « Ne m'abandonnez pas !» Ce mot mit fin à la lutte. Je cédai. Madame parut pleine de joie. Pauvre femme, elle avait tant pleuré. Comment aurais-je pu résister au courage, à l'adversité, à la grandeur déchue, réduite à se cacher sous ma protection ? Une autre princesse, madame la dauphine, m'avait aussi remercié de mes inutiles services. Carlsbad et Ferrare étaient deux exils de divers soleils, et j'y avais recueilli les plus nobles honneurs de ma vie. Madame partit d'assez grand matin le 19 pour Padoue, où elle me donna rendez-vous. Elle devait s'arrêter au Catajau chez le duc de Modène. J'avais 100 choses à voir à Ferrare, des palais, des tableaux, des manuscrits. Il fallut me contenter de la prison du Tasse. Je me mis en route quelques heures après son Altesse royale. J'arrivai de nuit à Padoue. J'envoyai Hyacinthe chercher à Venise mon mince bagage d'écolier allemand, et je me couchai tristement à l'Étoile d'or, qui n'a jamais été la mienne.